Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Ici Radio Tiwa, donc sur les ondes FM en 107.5 ou alors sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous recevons pour l'interview Lynn. Bonjour Lynn.
Bonjour.
Alors Lynn, tu es ici pour nous parler d'un événement qui va se produire à partir du 23 novembre à la Griotte et qui sera en fait un cabinet de curiosité qui s'ouvrira pour une semaine environ et où toi tu vas y exposer un objet. Alors est-ce que tu peux nous en parler?
Alors je vais exposer un objet un peu particulier qui s'appelle Apsium, qui est composé de deux hamacs dans lesquels il y a des petits haut-parleurs. En fait, c'est assez tranquille. Le public est invité à s'allonger là-dedans. On vous équipe. Enfin, je vous équipe. Et comme le son, c'est de la vibration, comme les haut-parleurs sont sur le corps, vous allez ressentir les vibrations de ces sons en différents points du corps. Dans ces hamacs, il y a 14 petits haut-parleurs. Et chacun est commandé individuellement. C'est donc pas de la stéréo, mais du multicanal. Ce qui me permet, dans une composition qui est pré-composée et diffusée via un ordinateur, de faire se déplacer des sons et donc des vibrations à la surface de votre corps. Alors, pourquoi je fais ça?
Oui, pourquoi?
Pourquoi? Voilà, pourquoi je fais ça? Ah oui, encore un petit détail avant de ça. Et en plus, je vous fais une autre horreur, c'est que je vous bouche les oreilles. Parce que figurez-vous qu'on n'entend pas que par l'air, par le tympan, mais aussi par conduction osseuse. Et le fait de boucher les oreilles permet d'une part de réactiver cette écoute osseuse et d'autre part aussi de tourner votre attention sur l'espace du corps qui est en fait l'espace qui m'intéressait d'investir. Voilà, moi j'ai fait les Beaux-Arts à Berlin en sculpture. Donc, on va dire que ma matière, c'est l'espace au sens large. Et en particulier aussi l'espace du corps et l'espace intime qui a toujours été assez central dans mon travail. Et de fil en aiguille, j'ai toujours cherché à donner une place particulière au spectateur. Et qui, dans un travail visuel, impliquait toujours une distance entre l'objet et le spectateur. Et me rapprochant toujours plus de lui, j'ai eu envie d'investir le sens du toucher, qui est un sens qui est relativement tabou dans notre culture, qui est rarement au centre des pratiques de l'art, on va dire. C'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre de, justement de l'intime ou du médical ou du massage, du bien-être, des choses comme ça. Voilà, et donc c'est un sens que je voulais réhabiliter et voir si ça pouvait être une expérience esthétique. Donc Apsium, ces deux hamacs, ils me permettent de créer une sorte d'œuvre in situ, à même le corps du spectateur. Donc c'est une petite pièce de 11 minutes qui est diffusée sur le corps. Comme la vibration, c'est plutôt relaxant, donc ça a aussi un effet relaxant, mais ce n'était pas le but premier de ce travail, qui est pour moi un travail artistique. Voilà.
Est-ce que, justement, les sons qui sont diffusés sont de ta composition ou ce sont des choses que tu as pris et quel type de musique, d'ailleurs, utilises-tu dans ces appareils?
Alors, pour Apsium, en fait, c'est une pièce qui est déjà assez ancienne. L'objet a été créé en 2004 et la pièce, une pièce qui a été recréée plus tardivement en collaboration avec Julien Clauss, qui est quelqu'un qui vient de la musique électronique expérimentale. Et du coup, les sons qu'on y entend et qu'on y ressent sont des sons manipulés via l'informatique, filtrés et tout ça, mais qui ont pu être à un moment donné peut-être des sons complètement, enfin un enregistrement d'un son naturel, mais qui a été saucissonné, pitché, retourné.
De l'acousmatique.
Un genre d'acousmatique ou plutôt de l'ambiante, ambient noise.
Voilà. Ah, je vois, oui, d'accord. Musique pour être calme.
C'est de la musique bruitiste, on va dire. Enfin, c'est inspiré, l'univers de Julien, en fait, est assez proche au niveau des sonorités de ce qu'on peut trouver en électroacoustique ou en acousmatique, mais c'est une musique créée en direct, en live, d'où voilà, ça vient plutôt de la musique, des musiques électroniques improvisées. Bon, là, c'est un espèce de mix des deux. Quand on bossait, on réfléchissait à des déplacements, puisque là, une des composantes aussi, c'est le déplacement du son, et à des types de textures qu'on voulait avoir, et qui, justement, aussi, avaient un côté tactile dans le haut-parleur. Et donc, on a improvisé toutes sortes de petits morceaux, et après, on a repassé dessus en faisant un travail de composition. Donc, voilà, c'est l'univers sonore qui appartient plutôt à Julien, mais où on a travaillé ensemble dessus.
Et donc le cheminement de cette musique par le corps s'opère dans la globalité du corps, ou alors c'est par mouvement, soit par les jambes, et puis en alternance après au bras, je ne sais pas. Comment ça se passe au niveau de cette musique?
Alors le dispositif technique permet justement de pouvoir jouer chaque point indépendamment l'un de l'autre, ou tous ensemble, ou 2x2, ou 3x3, donc ça permet une grande liberté.
Est-ce que cette possibilité est gérable par la personne qui écoute ou pas?
Non. Alors là, pour l'instant, c'est pas dans un stade interactif, on va dire, parce qu'en fait, une des raisons aussi, en dehors de la complexité technique, c'est aussi que, en fait, quand on est allongé dedans, c'est pas une grosse le type de vibration qu'on ressent. C'est assez ténu, c'est plutôt proche d'un téléphone qui vibre, on va dire, et pas de ce qu'on connaît de la musique amplifiée qui vient faire vibrer tout le corps. Et du coup, avoir une activité physique et mentale en même temps, finalement, te soustrait à l'expérience, à ce qui fait la qualité de l'expérience, qui est aussi un peu le lâcher prise et de partir sur orbite. Voilà, donc... On m'a souvent posé cette question par rapport à ce travail, et en fait le sens du toucher demande une attention assez importante et qui est très rapidement parasitée à partir du moment où le regard intervient. Donc c'est pour ça que c'est resté dans des choses plutôt passives qu'interactives.
Des possibilités d'association avec la médecine, par exemple?
Alors, ça fait depuis 10 ans que je fais ce type de boulot. Il y a beaucoup de personnes du corps... alors, ça dépend toujours ce qu'on appelle le corps médical.
Ou paramédical.
Mais paramédical, en tout cas, des ostéopathes, des kinés qui ont été très intéressés. J'ai travaillé avec des chercheurs en neurosciences cognitives un petit peu, ce qui risque de se poursuivre aussi là prochainement à Grenoble. Il y a quelqu'un qui semblait y voir un intérêt pour des personnes en soins intensifs. J'ai fait des expériences, enfin j'ai fait expérimenter ça à des enfants autistes pour qui c'était très plaisant, mais il faudrait pousser plus loin pour voir si ça peut avoir un intérêt réellement thérapeutique et pas juste de distraction. Voilà, en fait, effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours, aussi médecine chinoise. Enfin, voilà, les retours les plus aussi de public tout venant, c'est des personnes qui rentraient qui avaient mal à la tête avant ou mal au ventre, et puis qui ressortent qui ont, après 10 minutes, qui n'ont plus mal au ventre, ou une dame qui avait une pathologie avec une jambe plus courte, une colonne toute vrillée et tout ça, et qui m'a dit normalement qu'elle faisait 1h15, 1h30 d'exercice pour atteindre ce niveau de détente, alors que là, elle l'a fait en 10 minutes. Donc voilà, oui, il y a sûrement des applications.
Et je pensais à justement... Attends, un petit trou là. Ça m'arrive des fois. on a parlé de médecine. Donc je voulais rebondir sur quoi justement. En fait, oui, à savoir, est-ce qu'il existe un menu justement disponible au public qui voudrait s'allonger sur ton hamac?
Un menu?
Menu musical. Est-ce qu'on leur propose un choix?
Non, il y a pour. En fait, moi, j'étais partie un peu dans l'optique. Enfin, ça, c'est une déformation professionnelle, on va dire, d'artiste plasticien. Et j'étais partie dans l'idée de pas faire un instrument de diffusion. C'est-à-dire une chaîne avec voilà, mais de faire une sculpture. Du coup, là, pour le coup, c'est à chaque fois, normalement, il y a un objet, une pièce. Après, on pourrait dévier, mais j'ai, en fait, en définitive, j'ai pas créé tellement de pièces. Voilà. Parce que finalement, mon médium, c'est pas forcément que le son et
ouais. C'est toi qui as construit le prototype de ce hamac, par exemple?
Oui.
Et donc ensuite, comment ça se passe? Tu en as produit plusieurs, je suppose?
Alors, j'ai différents projets qui sont basés sur le même principe que j'ai appelé l'audio-tactile. Il y avait un premier projet en 2003 qui a été aussi mon diplôme aux Beaux-Arts de Berlin, qui s'appelle « À fleur de peau », où les gens sont debout dans des sortes de cabines en tissu et les haut-parleurs sont suspendus dans des petites bandelettes qui permettent de scratcher aux différentes parties du corps, donc allant de la tête aux pieds. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était vraiment de travailler sur cette tridimensionnalité, l'espace du corps. Et j'avais un peu une limite technique de 16 points. Et de voir comment est-ce que je peux les disposer sur le corps pour pouvoir dessiner, en fait, souligner ces trois dimensions, l'avant, l'arrière, le centre, le bas, le haut et tout ça. Et pas par rapport à des points de médecine chinoise, hein, juste pour revenir sur la thématique d'avant. Après, on tombe forcément sur des points névralgiques. Ensuite, donc Apsium, c'est le deuxième projet qui a été créé à l'époque à Berlin pour un projet de collaboration à la base avec ces hamacs étaient posés dans un ancien château d'eau qui a une acoustique très particulière, qui est un corps concentrique avec des couloirs concentriques. Et donc les compositeurs avaient été invités à composer pour les 14 canaux sur le corps, plus 10 canaux dans l'espace. Moi, ça m'avait intéressé de confronter cette architecture de l'intime avec une architecture, un corps qui était beaucoup plus grand. Voilà, après, ça c'est pas au niveau des compositions, malheureusement, ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité. Et il se trouve qu'on ne peut pas composer sur cet objet comme on composerait pour une écoute aérienne. Et c'est une chose que les compositeurs n'avaient pas pigée. Donc voilà, ça ne fonctionnait pas forcément très bien. C'est pour ça que plus tard, avec Julien, on a repris une pièce. Puis par la suite, 2005, c'est là que j'ai commencé à bosser avec Julien. J'avais un projet de... J'avais la problématique d'augmenter un peu la jauge de ces choses. Voilà, parce que je tourne dans les festivals surtout d'art numérique, on appelle ça. Et du coup, j'étais partie sur un objet qui avait avec 5 chaises suspendues, donc qui est plus grand et qui permettait de faire passer 5 personnes à la fois et qui, au départ, devait être avoir une certaine interactivité. Et donc une modification de la composition aussi pour répondre un petit peu à cette demande des gens qui étaient frustrés que les pièces ne durent que 10 minutes. Et en fait, l'effet du self-service a été complètement nul, puisque finalement les gens se mettaient juste dedans, puis ils disaient j'ai compris, puis ils ressortaient, alors que du coup ils passaient vraiment à côté de la dimension de la chose. Donc on est reparti dans un truc plus sévère avec des pièces composées. Et plus tard, 2009, l'étape d'après aussi avec Julien Clauss, on a développé Stimuline, c'est une version concert, où on peut équiper 28 personnes avec des combinaisons. Donc là, on repart sur du vêtement. Les gens sont installés sur des petits matelas. Il y a tout un rituel d'équipement aussi qui fait partie de la chose. Et là, c'est des lives électroniques qui durent 50 minutes à peu près. Et où il y a aussi, en plus donc, de ces petites vibrations sur le corps spatialisé, là, on rajoutait donc, ce qu'on connaît plus des musiques amplifiées et maintenant aussi des acousmoniums, enfin, du son spatialisé qui se développe beaucoup ces dernières années. Donc, il y avait en plus une quadriphonie et des subs à l'extérieur, ce qui nous permettait de faire des espèces d'équilibre où on ne sait plus ce qui est dedans, dehors et tout ça. Voilà, en gros, c'est l'évolution. Malheureusement, ces projets ne sont pour l'instant plus... Enfin, ce projet en particulier n'est pour l'instant plus montré parce que avec Julia, on a eu quelques... voilà, les équipes se séparent parfois.
Quelques divergences.
Voilà.
Ça peut revenir, hein, ceci dit. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça, les artistes. oui, et donc, toi-même, tu seras certainement présente pendant cette durée de l'exposition pour être l'hôtesse, en quelque sorte, de ton œuvre. Voilà, et voilà. Tu peux nous expliquer alors comment ça va se passer.
Du coup, oui, je vais parler un petit peu de cette dimension-là aussi. Le côté hôtesse, normalement, je le fais plus trop quand je suis sur des gros festivals sur plusieurs jours, parce que souvent, les budgets ne suffisent pas. Et là, j'ai envie de le faire aussi, parce que c'est le Diwa, et puis de toute façon, ce n'est pas une histoire d'argent. Mais pour faire découvrir à plein de gens que je connais ici mon travail, qui ne connaissent pas depuis des années, ils me demandent ce que je fais. Donc, en gros, j'accueille les personnes et je les installe, je les équipe avec les petits haut-parleurs et ensuite je diffuse la pièce. Et en fait, cette partie d'hôtesse, pour moi, elle est aussi très importante puisque ces œuvres audio-tactiles, à la base aussi, s'il y a une dimension de critique et de critique des médias, pour moi, derrière ça, c'est un peu des sortes de béquilles du toucher ou ouais, des prothèses, des œuvres un peu prothèses, qui seraient une sorte de... Étant donné qu'avec les nouvelles technologies, l'augmentation de la vitesse de déplacement, donc des distances entre les gens et tout ça, le toucher finalement est de nouveau un sens qui empathie, même si tous ces appareils nous promettent, nous disent de les toucher, les touchscreens et tout ça, mais... on est rarement touché. Et donc, pour moi, la partie médiation et accueil du public fait vraiment partie intégrante du travail. Et aussi d'avoir, s'il y a envie, un échange sur ce qui a été vécu. Voilà. Donc, il faut compter à peu près 15-20 minutes. Et... je ne sais pas du coup comment on fera, mais peut-être le plus simple pour que les gens ne se cognent pas le nez parce que c'est vite plein et que je passe que 6-8 personnes de l'heure, ce serait qu'on fasse des rendez-vous et du coup, je vais vous donner le numéro de téléphone peut-être,
ça
de portable.
À voir sur place.
Ouais, oui, ou à voir sur déjà, place.
Oui.
Ouais.
Et juste une question comme ça subsidiaire. Paul Virilio, a-t-il une influence sur ton travail ?
Alors, moi, je ne l'ai jamais lu, mais on en avait parlé avec Julien à un moment où... puisqu'avec Julien, on avait organisé pendant 2 années des rencontres interdisciplinaires à Barnave qui s'appelaient « Laisser le passage libre ». Et notamment, on avait entamé un cycle de conférences où on voulait que chaque année, ça soit dans un déplacement plus rapide, et notamment en référence à Paul Virilio. On avait commencé la première année sur la marche, où un philosophe avait parlé de la marche en marchant, en allant garder des chèvres de Jochen et Oda, avec un petit groupe d'artistes. Ça, c'était l'année zéro, en fait, des rencontres. L'année suivante, ça a été l'attelage, la calèche, où un autre artiste a parlé. Et la troisième année, mais ça, on a eu des problèmes techniques, ça devait être un marathonien qui faisait une conférence en courant avec un émetteur sur le dos et un peu au style Tour de France, tout le monde était avec la radio sur le bord. Mais ça n'a pas trop marché techniquement, le machin a pris feu,
ah,
on a eu quelques problèmes. Mais voilà, l'idée c'était... pour répondre à cette histoire de Paul Virilio. Après, je ne sais pas comment on serait allé beaucoup plus vite.
Ouais, je me référais au toucher, par exemple, et puis à la vitesse, oui, justement. Ouais. Voilà. Que dire de plus ? Ça va venir, sûrement. Oui, une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il existe une philosophie à l'école des Beaux-Arts de Berlin ?
Une philosophie.
Une manière peut-être même une espèce de regard visionnaire sur le monde.
Alors moi, disons que moi j'étais à l'école de Berlin-Est, puisqu'il y a deux écoles. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette école et que j'ai peut-être gardé, c'est le fait de partager beaucoup les choses et peut-être de former des artistes moins individualistes. En tout cas, en plasticien, on est souvent des solitaires. Et pour moi, ça a été toujours normal de partager des savoirs, des savoir-faire ou des informations. Ou, voilà. Et puis, peut-être aussi, moi j'ai été étudiante chez une prof qui a été élève de Joseph Beuys, donc, où on a été beaucoup sensibilisés dans le travail avec, j'ai oublié les noms maintenant, mais bon, pas très très grave. Oui, le côté social et politique peut-être aussi du travail, et on a fait pas mal de projets dans l'espace public, et des choses comme ça. Donc pour moi, c'est la prise en compte du spectateur est quelque chose de très important. Après, je ne sais pas si c'est une généralité par rapport à cette école, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est central dans mon travail.
D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a attiré pour qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement à cette école à Berlin ?
Alors moi, ma mère est allemande. Et j'avais, après la fac d'art plastique à Strasbourg et Paris, j'avais envie de partir, j'avais envie de relier avec une partie de ma culture. Et il se trouve qu'à Barnave, il y a des Berlinois qui ont une maison depuis très très longtemps, depuis l'après-guerre. Et j'ai discuté avec eux. Et à ce moment-là, en fait, j'étais un peu en doute par rapport à ces pratiques plastiques, parce qu'à la fac d'art plastique, c'était beaucoup de théorie et finalement pas beaucoup de pratiques. Et je sortais de maîtrise et j'avais l'impression de rien avoir entre les mains. Et du coup, je me demandais, est-ce que je peux faire de la taille de pierre ou un truc comme ça. Et puis, ils m'ont dit, mais va donc voir cette école à Berlin-Est, parce que c'est Berlin-Est, c'est peut-être moins conceptuel, il y a peut-être encore moyen d'apprendre les techniques les savoir-faire de base sans pour autant aller faire un apprentissage de taille de pierre pour lequel je me sentais pas. Et du coup, voilà, c'est un peu ça qui m'a, ces deux éléments qui m'ont emmené là-bas. Et je suis partie avec mon petit dossier sous le bras pour le concours, et j'ai été sélectionnée ensuite dans la nuit sur le dossier. Puis je sais pas, je me suis sentie tout de suite super bien dans cette école, et puis voilà, ça s'est fait. Et j'ai pas regretté ni l'école ni cette ville qui est super intéressante et qui s'est transformée très très vite et beaucoup dans ces 20 dernières années.
Je vais revenir à l'espace. Tout à l'heure, tu parlais que tu travaillais sur l'espace aussi. Et donc, quand je me suis promené sur Internet et avoir tapé ton nom sur Google, je me suis retrouvé avec des vidéos ou des images où on peut voir une multitude de hamacs avec des gens installés dessus. Et ça dégage une espèce de solennité ou de gravité. Et c'est une image qui m'a rappelé, je crois t'en avoir déjà parlé, d'une œuvre de Rosemary Troeckel que j'ai vue à Venise en 99. Et c'était une vidéo qui montrait dans un dôme immense des matelas allongés, des matelas étalés, et avec beaucoup d'hôtesses tout en blanche. Et les gens de tous âges qui venaient, qui discutaient avec l'hôtesse, et puis qui les installait sur un lit. Et puis, ça me faisait penser à un espèce de meilleur des mondes où il n'y a plus d'intimité.
Mmh. Oui, c'est drôle. Ben, souvent, les formes qu'ont pris les œuvres audio-tactiles, c'est des formes qui sont très influencées par la fonction, en fait. Donc, du coup, on est presque dans des questions de design aussi, puisqu'il fallait que je trouve des moyens de fixer des technologies sur le corps des gens et de pouvoir adapter ça à la taille des gens et tout ça. Donc ça a pas mal orienté. Et effectivement, avec tout ce qui se câblage et ces choses sur le corps, et finalement, d'envoyer les gens à se relier à eux-mêmes... c'est vrai que ça a quelque chose un peu d'image qu'on connaît de la science-fiction des années 70, un espèce de rétro-futurisme comme ça, austère. Et ouais, c'est drôle parce que à la base, je pense que mon travail, c'est pas forcément une esthétique qui m'était propre, mais elle est venue à travers les contraintes techniques de ce boulot-là. Et finalement, j'aime assez ce que ça emmène, ce côté à la fois très futuriste et un peu vieillot. Et finalement, c'est aussi ce que c'est les projets audio-tactiles. J'ai été montrée dans le milieu de l'art numérique et des nouvelles technologies et tout ça, où il y a des surenchères de vidéoprojection, d'interactivité et tout le tralala, qui, moi, finalement, me sont assez étrangères. Et pourquoi j'ai atterri là ? Juste parce que, en fait, il se trouve que pour faire du multicanal de nos jours, on met un ordinateur derrière et des cartes son, et voilà. Mais le multicanal, on en faisait déjà dans les années 50, sauf qu'il fallait des armoires énormes et tout ça, puis c'était un peu moins pratique. Il y en avait genre juste à Radio France ou... Voilà, mais c'est finalement, il y a quelque chose de l'idée de que le son c'est de la vibration, enfin pas l'idée, mais le phénomène que le son c'est de la vibration, c'est un peu vieux comme le monde, justement dans des pratiques holistiques, on va dire, les bols tibétains, les choses comme ça, poser des objets vibrants sur le corps ou même chanter, ou je veux dire, il n'y a pas besoin de se mettre des haut-parleurs sur le corps pour se sentir mieux. Mais voilà.
Et peut-être, c'est peut-être un placebo, une sorte de placebo quelque part.
Après, là, ce qu'il y a, c'est que la complexité des mouvements et le fait de pouvoir stimuler plein d'endroits en simultanément ou en décalé, tout ça, c'est sûrement le plus. Et voilà, en tout cas, les gens, ça leur plaît bien. et finalement, et puis une question aussi, comme on va souvent penser, on dit mais c'est de l'art votre truc, donc comme souvent, on est souvent confronté à ça dans l'art contemporain ou visionnaire un peu, puis je dis pourquoi est-ce que ça le serait moins qu'une peinture ou une musique, parce que finalement, une expérience esthétique, artistique, c'est quelque chose qui nous apporte. Des émotions, des questionnements, et finalement, c'est... Donc, la personne avait l'air satisfaite de cette réponse. Voilà.
Merci, Lynn. Donc, je rappelle le cabinet des curiosités qui ouvre ses portes à la collection Denis Lombard, et avec comme artiste invité Lynn Pou, qui nous présentera, donc, j'ai oublié le nom...
Apsium.
Et autres bizarreries qui seront visibles du 23 novembre au 1er décembre et relativement aux mêmes heures, c'est-à-dire de 16h à 18h. Et il y aura une autre émission justement avec Macha de Bourges qui a organisé cette exposition. Voilà. Lynn, est-ce que tu as une idée de musique qui pourrait peut-être accompagner cette interview ?
Une idée de musique il faudrait que je te donne quelque chose.
Tu peux me dire un artiste ou un compositeur artiste, je pourrais trouver quelque chose.
C'est les noms, je suis nulle avec les noms.
De la musique classique.
Non, non, pas forcément.
Te rappelles-tu de ce film, je ne sais pas si tu l'as vu, Soleil Vert?
Oui.
Et où à la fin, il y a le compagnon du héros qui est vieux et qui va justement dans une espèce de centre de retraite.
Mm.
Et dans lequel on l'allonge dans une salle avec un écran panoramique et on lui envoie des très belles images de la Terre à l'époque où elle était encore verte avec des animaux et tout.
Ouais.
Et il y avait une musique grandiose qui accompagnait sa fin de vie, en fait, c'était lugubre.
D'accord. Mais je sais pas, il y a un nom qui me vient, mais je sais pas si ça passe très bien à la radio sur 2 minutes, c'est Eliane Radigue.
Tout est possible à Radio Diwa.
Ouais. Oui. Voilà, parce que c'est une dame de l'électroacoustique qui en plus est venue jouer l'année dernière.
Comment tu dis que
Eliane Radigue.
Eh bien, j'ai justement enregistré quelques morceaux dernièrement, mais qui durent 1 heure.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et il y en a un de 2 minutes, donc.
Je ne sais pas s'il y en a de 2 minutes, mais
oui, c'est vrai qu'on peut prendre un extrait,
si
c'est pas facile.
Il y a un extrait, ouais.
Ouais.
C'est ça le problème avec les musiques un peu d'ambiance, c'est des choses qui ont besoin de temps pour s'installer. Voilà. Sinon, Panasonic.
Ah, très bien, Panasonic.
Ça te plaît,
lui,
ça
dure, ouais. 4-5 minutes en général, voilà. C'est bien. D'accord.
Eh
bien,
électronique minimale. Ouais.
Très bien. Eh bien, Lynn, merci.
Je t'en prie.
Et
merci à toi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Interview. 1. Interview.
Okay.